France Info.
Cet après-midi à Pau, à Oloron-Sainte-Marie, 16 à Lille, à Paris 17 à Lyon, 18 à Rennes. Le moins doux, ça sera pour Strasbourg avec 14 degrés cet après-midi.
La météo de dingue, signée Christine Peña. Merci à tous d'écouter France Info, il est 5h. Et à la une ce matin, donc, ce triste anniversaire, 4 ans de guerre en Ukraine et des combats qui se poursuivent, notamment à l'aide de drones. Les Russes parviennent à contourner les brouillages électroniques. France Info, reportage sur le front. L'ambassadeur américain en France ne peut plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Mesure de rétorsion de Paris, Charles Kushner a ignoré une convocation du ministre des Affaires étrangères. France Info vous dévoile aussi le dernier rapport de l'organisation étudiante, la FAGE. Un tiers des étudiants mal logés dans notre pays. Et puis nous vivrons le retour de la flamme à Albertville, la flamme olympique de retour alors que se préparent les prochains Jeux d'hiver dans les Alpes. 4 ans de bombes, 4 ans de missiles, 4 ans de drones. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine et espérait conquérir rapidement le pays. Mais 4 ans plus tard, la guerre dure toujours. Le bilan est déjà extrêmement lourd. Jusqu'à 1 700 000 soldats russes et ukrainiens tués, selon une estimation du Center for Strategic and International Studies. Puis il y a bien sûr les civils tués et blessés, mais l'Ukraine continue de tenir. Le réseau américain Starlink a coupé son accès aux terminaux utilisés par les Russes, mais de nouvelles tactiques émergent pour contourner ces blocages des drones. Un soldat d'Izium vous a confié ses craintes, Claude Guibal.
Il est planté dans la neige comme insensible au froid. On est à Izium, la porte du Donbass, et pendant qu'on lui parle, on entend régulièrement les explosions.
C'est quelque part dans le coin.
Il donne son nom de code, Wi-Fi, il est artilleur. Pour lui, dit-il, ce qui devient désormais très dangereux, ce sont les trajets qu'il faut faire pour rejoindre sa position de combat. Sa hantise porte un nom, l'Ijdoun.
Le drone Jdoun, il s'installe au bord de la route, il a une fibre optique et il attend. Nous, une fois, on avait quitté notre position et on en a aperçu un posé sur le bas-côté. On a sauté hors de la voiture, on a vidé nos chargeurs sur lui, il n'a pas eu le temps de nous attaquer. Un deuxième drone a vu ça et s'est dirigé vers nous. Heureusement, lui a été pris dans le filet anti-drone et il a explosé. Un bon gros coup d'adrénaline.
Ces fameux Jdoun, ce sont des drones d'attaque reliés à leur opérateur grâce à des fibres optiques fines comme des cheveux, longues parfois de 30 km. Un système filaire qui les rend totalement insensibles au brouillage. Contre les Jdoun, le blocage de Starlink ne sert à rien. Une arme redoutable.
Claude Guibal, envoyé spécial de France Info en Ukraine. Cette guerre se poursuit et les négociations patinent. Dans un entretien donné à la chaîne américaine CNN, le président ukrainien affirme que le chef d'État américain ne fait pas suffisamment pression sur le président russe pour mettre fin à la guerre. Une réunion de la coalition des volontaires, les pays qui se placent aux côtés de l'Ukraine, est prévue dans la journée. Il était convoqué par la diplomatie française et il n'est tout simplement pas venu. Charles Kushner, l'ambassadeur américain à Paris, n'a pas répondu à la convocation du ministère des Affaires étrangères. La diplomatie française voulait une discussion après les propos de l'ambassadeur. Sur X, il avait dénoncé la violence politique d'extrême gauche en France et avait appelé à traduire les responsables en justice après la mort de Quentin Derenque à Lyon. Le ministre des Affaires étrangères a donc demandé à ce que Charles Kushner ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français tout en l'invitant au dialogue. Au dialogue, Sandrine Etoendeg.
Le ministère français des Affaires étrangères invite Charles Kushner à, je cite, « des échanges diplomatiques pour aplanir les irritants ». En d'autres termes, un dialogue constructif pour résoudre les points de friction. Tout est parti d'un tweet publié vendredi dernier, le 20 février, sur le compte X de l'ambassade américaine à Paris, qui reprend en français un communiqué du département d'État américain. Dans ce post, il est écrit, je cite, que « l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Derenque démontre la menace qu'il représente pour l'ordre public ». Une forme d'ingérence qui a vivement irrité donc Jean-Noël Barrot. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame à des fins politiques, a réagi dimanche le ministre français des Affaires étrangères, en soulignant que la France n'avait, je cite, aucune leçon s'agissant de la violence, en particulier à recevoir de l'international réactionnaire. Il a donc convoqué l'ambassadeur Charles Kushner, mais c'est un responsable de l'ambassade américaine qui s'est présenté au Quai d'Orsay à la place du père du gendre de Donald Trump.
Sandrine et toi, Andeg, et tout à l'heure, à 10h, une réunion va se tenir à l'Élysée en présence, entre autres, des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Réunion sur les groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Le chef de l'État veut faire le point sur les mesures déjà prises et les procédures de dissolution des groupes en cours. Et alors que deux enquêtes ont été ouvertes à Lyon après les saluts nazis vus dans la marche en mémoire de Quentin Derenque, le week-end dernier, la famille du militant nationaliste dénonce la récupération politique et les débordements racistes dans cette manifestation. Le pronostic vital d'un joueur de rugby de 23 ans engagé à Sévrac en Aveyron, il a reçu un violent coup de poing à la tempe pendant un match de championnat. Le joueur qui a porté le coup a été placé en garde à vue, indique le procureur de Rodez. Arrêté hier soir, il vient d'être libéré sous caution. L'ancien ministre britannique Peter Mandelson a été interrogé dans le cadre d'une enquête liée à l'affaire Epstein. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations financières sensibles au pédocriminel Jeffrey Epstein alors qu'il était secrétaire au commerce. France Info, il est 5h06, ce n'est clairement pas l'appartement de leurs rêves. Avec des moisissures apparentes, des cafards, des dégâts des eaux non traitées, un tiers des étudiants vivent dans ce type de conditions, selon la dernière enquête de l'organisation étudiante Lafarge. Les chambres subventionnées par le Crous ne sont pas assez nombreuses, ils sont donc beaucoup à se loger dans le parc privé qui est plus cher, 491 euros en moyenne en France, 712 euros à Paris. L'accès au logement est l'un des principaux facteurs de précarité étudiante. Noémie Benin, vous avez pu le constater dans l'appartement d'une étudiante en banlieue parisienne.
Bonjour.
Nous voici chez Laura, étudiante en master de littérature.
C'est un appartement de 18 mètres carrés. Du coup, là, on arrive dans la petite salle de bain.
L'humidité est omniprésente dans ce studio.
Bah, les jambes sont noirs, tout pourri en fait concrètement. J'ai des livres qui pourrissent aussi juste ici. Pareil, tout ce qui est en bois, c'est pas du tout possible. Là, typiquement, j'ai des spatules qui ont pourri.
Pour ces problèmes, Laura a sollicité son agence immobilière qui n'a pas donné suite. Depuis qu'elle habite ici, la jeune femme a de nouveau des crises d'asthme et a découvert aussi quelques visiteurs.
J'ai retrouvé un cafard à côté de mon lit en pleine nuit. Dans la salle de bain aussi, un peu dans le salon. Mais c'est un peu triste à dire, mais on s'habitue.
Vous, comment vous vous sentez dans cet appartement?
Quand c'est le premier chez soi, on s'imagine plein de trucs, etc. Et puis, on tombe de haut quand même. Clairement, c'est dans l'imaginaire collectif. Ah, les étudiants, bah, ils sont pauvres et bah, du coup, ils vivent dans la misère. Moi, enfin, je me suis dit, maintenant, je ne serai pas cette personne-là parce que je vais travailler beaucoup. Puis en fait, bah, je suis.
Malgré tout, Laura n'a pas le projet de quitter cet appartement tout de suite, qu'elle paye 630 euros par mois. Elle a eu déjà beaucoup de mal à le trouver. Non boursière, elle craint de ne pas avoir mieux pour ce prix-là.
France Info reportage de Noémie Bonin. 10 000 soldats déployés au Mexique pour tenter d'endiguer les violences en cours dans une grande partie du pays. Violences qui font suite à l'élimination d'El Mancho, le chef de l'un des plus grands cartels du pays, un baron de la drogue. L'annonce de sa mort a provoqué une violente réaction des membres de l'organisation qui ont attaqué des banques, des commerces et ont affronté les autorités. Cela faisait 34 ans que la région attendait ça, les Jeux Olympiques de retour à Albertville, en Savoie, soirée festive hier. Les athlètes des Jeux de Milan Cortina qui viennent de finir sont venus à Albertville pour célébrer les médailles françaises. Des milliers de spectateurs étaient présents et le drapeau olympique a de nouveau flotté dans la ville puisque les Alpes vont accueillir les prochains Jeux d'hiver en 2030, Jérôme Val.
C'est un symbole qui a repris vie. Le mât d'Albertville, planté au cœur du parc olympique, l'emblème de la cité savoyarde, porte de nouveau le drapeau blanc aux cinq anneaux olympiques.
Beaucoup de fierté en tant qu'albervilloise.
Emmanuel est venu en famille assister à cette cérémonie en son et lumière.
Puis un retour aux sources et ça fait plaisir de voir un rassemblement d'autant de personnes. C'est très beau.
C'est beaucoup de fierté ouais, d'être albervillois, d'être savoyard et puis de réutiliser aussi ce qui a été fait en 92.
34 ans après, voilà le drapeau de retour. Un bond en arrière pour Max, un volontaire qui revient des Jeux de Milan Cortina.
J'étais un petit peu plus jeune. Mais c'est sûr que ça fait des émotions. J'ai porté aussi la flamme pour les Jeux de 24. Tout ça cumulé, beaucoup d'émotions.
2030, si loin, si proche, mais déjà de l'impatience pour cette supportrice venue de l'Allier.
Ça mobilise des gens pendant 4 ans et on pense aussi aux athlètes qui travaillent pendant 4 ans pour une minute de course. Quoi. Ça fait vibrer.
Un drapeau en guise de lancement officiel des Jeux de 2030. Une journée de répit aussi pour un dossier à la gestion décriée.
Il vaut mieux pas être au courant de tout, voilà, bon courage.
Moi je garde l'esprit des jeux et toutes ces guerres un peu internes ne m'intéressent pas.
En somme, ne pas céder aux persifleurs de ce projet, comme l'a dénoncé Sébastien Lecornu en visite à Albertville.
Le Premier ministre qui affiche son optimisme malgré une crise de gouvernance au sein du comité d'organisation. Et puis ce soir, il y a du foot, de la Ligue des Champions avec les matchs de barrage retour, avec notamment dès 18h45 l'Atlético Madrid contre Bruges. Et Christine Peña, vous êtes avec nous pour la météo à 5h10. Vous nous dites que l'amélioration se poursuit.
Mais oui, elle se poursuit. Les nuages sont de moins en moins nombreux. Le soleil s'impose même à l'ouest, hein, surtout du côté de la Bretagne, Cotentin. Vous aurez une belle différence avec cet après-midi, vous allez voir. Les dernières pluies s'évacuent par le nord-est. Paris restera sous la grisaille, mais le soleil sera là en fin de journée. Et puis les températures grimpent de plus en plus haut, de 14 à Strasbourg à 25 à Pau, au pied des Pyrénées.
Merci beaucoup Christine Peña.
4 ans de guerre
dans
en Ukraine.
La Russie qui lance une opération militaire.
Quelles conséquences pour l'Europe?
Journée spéciale demain sur France Info.
Vie quotidienne, économie, défense. Quels changements en Ukraine, en Russie et dans les pays voisins depuis le début du conflit?
C'est clair qu'ils jouent sur la pression économique. Ils font pression sur Zelensky.
Toute la journée, reportage sur place, mais aussi dans les pays baltes, en Finlande, en Allemagne et en Pologne.
Et nos invités et envoyés spéciaux en direct de Kiev et de Moscou.
4 ans de guerre en Ukraine. Quelles conséquences pour l'Europe?
Journée spéciale demain sur France Info.
Merci de vous réveiller avec France Info. Au menu de la prochaine demi-heure, ce reportage à l'approche des municipales. Pas auprès d'un maire ou d'une mairesse, mais avec ceux qui partagent la vie d'un élu. Ils nous diront à quoi ressemble leur quotidien. Nous serons aussi avec les chanteurs Sting et Shaggy dans le monde d'Élodie. Mais d'abord, les inondations encore dans l'ouest de la France.
France Info. 5h, 6h, Maureen Suignard.
La décrue a commencé, mais elle se fait de manière lente, très lente. 3 départements sont toujours en vigilance rouge ce matin. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, la Sarthe et la Charente sont en orange. En Gironde, l'heure est au grand nettoyage. L'eau s'est retirée des maisons et les habitants tentent maintenant de récupérer des affaires, des meubles. Stéphanie Scoc, vous êtes allée à Bassade, petit village de 150 habitants dans le sud du département.
Une dizaine de personnes s'affairent dans la maison de Brian, c'est l'Irlandais de Bassan.
Stéphanie, s'il te plaît, tu peux lui demander s'il veut qu'on vide vraiment tout là, ou que les choses qui doivent être vérifiées.
Do you want everything to be out? Everything?
Toutes les choses là, oui.
Tout est foutu, explique Brian. Les meubles, l'électroménager, tout est bon pour la casse. L'Irlandais est fatigué, mais il tient le coup grâce à la solidarité de ses voisins.
Catastrophe. Mais les voisins, ils étaient ici pour nous aider. J'avais peur hier, mais quand je pouvais voir l'assistance ici à Bassan, c'était magnifique.
Karine Butler, première adjointe au maire, coordonne l'opération Grand Nettoyage.
Là, c'est uniquement la Croix-Rouge et une dame qui est arrivée de Bordeaux. Je pense qu'il y a eu une annonce que vous avez faite passer, je crois, sur votre site à vous, là, je crois. Hein. Donc voilà, elle est arrivée ce matin. Bonjour, j'arrive de Bordeaux. Dit oui, mais comment? Sur une annonce sur ici.
Cette dame de Bordeaux, c'est Charlotte. Elle a posé une RTT pour venir aider les sinistrés de Bassan.
C'est simplement le besoin de solidarité, en fait, parce qu'on se projette en se disant que le jour où ça pourrait nous arriver, peut-être une autre catastrophe d'une autre nature. Mais on a besoin les uns des autres, et quand on voit les actualités et tout ce qu'on a autour, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important, et voilà, de pouvoir s'entraider, quoi. Je suis allée à la mairie, du coup, j'ai rencontré le maire, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge. Et après, là, il y a eu une distribution du travail et c'est la première maison dans laquelle on travaille.
De l'autre côté de la rue, Serge et Bruno, 2 habitants, chargent une remorque de meubles abîmés, direction la déchetterie.
On a tout en l'air. Puis voilà, et puis on s'est aidé le peu qu'on était, on a fait ça avec nos bras.
Pour faire ça tout seul, on n'y arriverait pas. La solidarité entre voisins, oui, existe encore. Peut-être pas partout, mais ici, ça a été le cas.
On s'est aidé le peu qu'on était dans le village, on s'est tous aidés. Ça a bien marché, quoi.
On ne réfléchit pas trop, là. Hein. Dès qu'on peut accéder chez quelqu'un, on le fait, quoi.
On y va de bon cœur, quoi.
Moralement, ça met un coup quand même. J'ai perdu 4 kilos en une semaine.
À ce jour, il ne reste plus que 2 maisons inondées à Bassan. La semaine dernière, 80% de la commune était sous l'eau.
Stéphanie Scoc d'ici Gironde pour France Info. Dans les départements où la vigilance est encore en cours, les secours continuent de s'activer. En Charente-Maritime, la Croix-Rouge a déployé une brigade nautique. Clément Maragou est infirmier et il nous raconte comment il peut venir en aide aux sinistrés.
Il ne s'agit pas justement de remplacer les collègues de la gendarmerie ou les collègues sapeurs-pompiers qui sont sur des missions de secours et de sauvetage. À la Croix-Rouge française, il était question de permettre nos actions du quotidien, nos actions en faveur des sinistrés, dans un contexte très particulier, qui est le contexte des inondations. Donc on a mis à disposition des équipes d'action sociale de la Croix-Rouge française, nos unités de sauveteurs aquatiques qui travaillent régulièrement en bord de plage, par exemple, pour qu'ils puissent les aider à aller vers les personnes les plus défavorisées et les personnes les plus fragiles.
Alors là, vous intervenez pour l'instant en Charente-Maritime. Est-ce que ça peut s'étendre, votre action ?
Bien sûr, et le dispositif s'étend d'ailleurs. On a plusieurs équipes qui vont tourner autour de Saintes et on va aller vers d'autres villages. La problématique étant qu'il ne s'agit pas d'aller voir des gens qui sont en situation de détresse aiguë depuis les inondations, mais plutôt des gens qui sont restés dans leurs habitations et qui se découvrent des besoins ou des difficultés particulières au bout d'un certain temps. L'objectif majeur, ça reste la solidarité et ça reste ce que l'on sait faire. Envoyer des équipes paramédicales avec des infirmiers, par exemple, qui vont voir des personnes qui sont en rupture de traitement parce qu'elles restent à domicile, ou apporter à manger, apporter des batteries externes de téléphone, par exemple, pour permettre aux gens qui n'ont plus l'électricité de joindre leurs proches s'ils sont restés dans leur maison. Et donc, effectivement, on a commencé ces activités. Depuis près d'une semaine, nous travaillons sur la ville de Saintes et on envisage d'aller sur d'autres secteurs, bien évidemment.
Et concrètement, est-ce que vous avez une fourchette à nous donner ? Combien de personnes a aidé peu ou prou ? On l'a dit, hein, la Charente-Maritime est toujours en rouge sur la carte de Météo France, et il y a des endroits plus touchés que d'autres.
Bien sûr, des endroits plus touchés que d'autres. Et là, on est sur plus d'une centaine de foyers qui ont été visités par les équipes de la Croix-Rouge sur des besoins aigus, des besoins médico-sociaux notamment, grâce à nos équipes qui peuvent effectivement transporter les infirmiers, les acteurs du médico-social n'importe où, y compris dans des endroits qui sont encore pris par les eaux.
On entendait tout à l'heure sur France Info le maire des Gonds au sud de Saintes. Il nous expliquait qu'il avait demandé au SAMU d'installer une cellule psychologique dans l'hôtel de ville parce qu'il n'arrivait plus à faire face au désarroi de ses administrés. Dans quel état sont les habitants que vous rencontrez ? Est-ce que vous devez aussi les rassurer ? Est-ce que ça fait partie du protocole ?
Bien entendu, et non seulement ça fait partie du protocole, mais ça fait partie des missions essentielles finalement de la Croix-Rouge française. Hein. Et nous avons l'habitude de travailler aux côtés des cellules d'urgence médico-psychologique sur l'accueil et la prise en charge des personnes sinistrées. Nous, on constate effectivement un mort à l'amberne et avec le temps qui passe et l'eau qui reste, des difficultés médico-sociales et psychologiques. Et c'est pour ça que nos équipes vont au contact, y compris dans les endroits les plus reculés et toujours en eau pour essayer d'échanger, pour apporter du soutien et puis orienter aussi des familles qui sont en difficulté et qui sont en situation de mal-être.
Parce qu'il y en a aussi qui ont décidé de partir, qui ont tout perdu finalement.
Bien sûr, effectivement, il y en a qui ont décidé de partir et qui ont tout perdu, et il y en a qui ont tout perdu et qui pourtant restent dans des maisons qui ne sont plus habitables clairement, hein, sans chauffage, sans électricité, sans gaz, et qui restent quand même sur les sites et qui sont également en difficulté.
Clément Maragou, combien avez-vous de bateaux? Je ne sais pas si on peut appeler ça des bateaux, des barques pour cette brigade nautique. Est-ce que aussi vous arrivez à passer un peu partout parce qu'on peut rencontrer des chemins plus étroits que d'autres? Est-ce que vous pouvez passer partout?
Alors oui, on passe partout parce que clairement les équipes finalement qui travaillent avec ces structures Croix-Rouge sont des sauveteurs aquatiques qui sont rompus aux missions en eau et dans des situations difficiles. Donc on passe partout, effectivement, c'est pas une difficulté. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on est sur 3 embarcations qui tournent dans différents endroits, différents sites. Mais encore une fois, l'idée, ça n'est pas qu'une équipe nautique. L'idée, c'est effectivement la Croix-Rouge française qui se déplace partout où on a besoin d'elle, parce que c'est ça qui est essentiel.
Et justement, vous allez continuer ce travail, cette mission, quand la décrue sera presque terminée ou terminée, vous allez aider à nettoyer. C'est aussi un soutien important pour les sinistrés.
Bien sûr, c'est un soutien important, et la Croix-Rouge française est une structure qui reste sur la post-urgence, qui reste le temps qu'il faut, et aujourd'hui c'est la stratégie portée par notre présidente, le docteur Caroline Cross, qui souhaite renforcer encore notre présence sur les situations d'urgence, de crise, et sur la post-urgence pour être aux côtés des sinistrés, y compris une fois que l'eau n'est plus là et qu'il faut tout reconstruire.
Clément Maragou, infirmier à la Croix-Rouge, au micro France Info de Soisigbourg. Elles ne sont pas maires de leur commune et pourtant leur vie est aussi très rythmée par ce qu'il se passe dans leur ville. France Info reportage auprès de deux épouses d'Edil alors que les municipales approchent. Ce sera juste après un tour complet de l'actu.
France Info, 5h-6h.
Bonjour, bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
Et à la une ce matin, des dirigeants européens attendus en Ukraine pour le 4e anniversaire de l'invasion russe.
Notamment la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De son côté, à distance, Emmanuel Macron préside une réunion avec les alliés de l'Ukraine. L'offensive russe a fait des centaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés. À Lyon, un adolescent de 15 ans hospitalisé dans un état grave, poignardé hier à proximité d'un lycée. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Convoqué à Paris, l'ambassadeur américain ne se présente pas après ses commentaires sur la mort de l'étudiant d'ultra-droite Quentin Derenque. La France sévit, l'ambassadeur n'a plus de contact direct avec le gouvernement français. Toujours des intempéries et des inondations en France, la décrue est lente. Trois départements de l'Ouest encore en rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Une fête et un symbole hier soir à Albertville. Les athlètes français des JO de Milan-Cortina célébrés et le drapeau olympique flotte désormais dans la ville de Savoie en vue des prochains JO d'hiver dans les Alpes.
France Info.
Le premier tour est maintenant dans un peu moins de 3 semaines. Les élections municipales approchent. Il y a ceux qui ont choisi de se présenter et les autres qui sont embarqués dans tout ça alors qu'ils n'ont pas épousé la politique. À quoi ressemble la vie quand on est le conjoint, la conjointe d'un élu disponible 24 heures sur 24? Caroline Félix, vous avez rencontré deux épouses de maires ruraux dans l'ouest de la France, en Mayenne et dans la Sarthe.
Rosemary est la femme de Richard, le maire du village de Méral, en Mayenne, et elle entend le téléphone de son mari sonner à toute heure.
Il reçoit des alertes dès qu'il y a une intervention des pompiers. Le téléphone sonne souvent, en plus surtout quand vous avez une maison de retraite sur la commune.
Bah, il se déplace.
En cas d'absence, Rosemary gère leurs deux filles, et c'est un peu plus facile pour elle, qui a plus souvent des horaires fixes.
Ce matin, donc, je lui ai juste demandé, as-tu une réunion ce soir? Donc oui, en l'occurrence, puisqu'il y avait une réunion à la communauté de communes, donc dans ces cas-là, je gère l'organisation ensuite pour les enfants, et à préparer donc les repas de façon à ce que quand il arrive tard le soir, il ait une assiette de prête.
La fonction de maire prend de la place dans l'emploi du temps, moins dans les conversations. Rosemary tient à ne pas trop en parler en famille. Même chose quand elle se promène dans le village.
Il m'est arrivé une ou deux fois qu'on vienne me voir parce que, tiens, ce serait bien que. Je ne m'en mêle pas. Il y a une mairie, il y a des services. On tient à ne pas tout mélanger et puis on respecte aussi la fonction.
Amélie aussi veut séparer le privé du professionnel. Elle gère une boutique au Mans. Son mari est maire de Fatine, 900 habitants. Ils ont 2 enfants en bas âge.
Mon cerveau, il a déjà trop de choses dans la tête. Je sais vraiment pas tout ce qui se passe, toutes les réunions et tout. Non. Il en a tellement que au bout d'un moment, je suis plus en fait.
Mais parfois, la vie de la mairie fait irruption chez eux. Certains habitants viennent toquer à la porte parce qu'ils ne trouvent pas son mari. Et ça peut être bien plus lourd, comme l'an dernier après une décision municipale.
On a pris un courrier anonyme et on se prenait aussi des insultes dans les rues de Fatine et même sur les enfants. Donc ça n'a pas été cool. Moi, j'ai un caractère assez fort et j'aurais tendance à répondre. Et là, il fallait que je prenne sur moi et c'est plus ça. Les gens, ils n'arrivent vraiment pas à faire la part des choses. C'est dommage. On est vraiment une famille soudée. Donc voilà, on a passé ce cap et c'est bon, c'est passé.
Malgré tout, Amélie a donné son feu vert pour un 3e mandat.
Non, c'est ce qu'il aime, donc il doit continuer comme ça, c'est bien.
La commerçante souligne aussi le positif. Participer aux événements, aux cérémonies d'hommage. En Mayenne, Rosemary aussi a autorisé son époux à se représenter.
On est fiers aussi de choses qui sont mises en place. On est fiers de lui. C'est une transmission aussi de valeur à nos enfants, l'engagement.
Leur aîné participe même au conseil municipal des jeunes.
France Info reportage de Caroline Félix. Et voici Élodie Suigo, 2 invités toute cette semaine dans le monde d'Élodie, un chanteur britannique et l'autre jamaïcain.
Bonjour Sting.
Bonjour.
Bonjour Shaggy.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux réunis à France Info pour passer cette semaine avec nous dans le monde d'Élodie. Vous êtes actuellement ensemble sur scène avec votre spectacle musical The Last Ship qui se joue en ce moment et jusqu'au 7 mars prochain à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Quand on vous voit sur scène et qu'on vous entend, ce qui ressort, c'est le plaisir de jouer. Et c'est ce regard d'enfant qui a toujours regardé loin avec l'œil qui frise. Et cet œil-là, on a l'impression qu'il ne vous a jamais quitté.
Vous avez tout dit. Et si le jour où ça disparaîtra, ça serait tellement malheureux.
et nous avons l'énergie qu'ont les enfants. Lorsque nous sommes sur scène, nous sommes comme des enfants sur scène, je suis tellement bien. C'est un peu comme un gamin qui joue avec son grand camion. C'est un immense amusement.
Je voudrais qu'on revienne sur une anecdote, Sting. Un jour, vous êtes le long du port et il y a une Rolls-Royce qui arrive. Il y a la reine-mère à l'intérieur. Vous avez un petit drapeau et à ce moment-là, la reine-mère vous regarde assez longuement et vous dites d'ailleurs que vous vous rappelez qu'à ce moment-là, vous avez le sentiment que vous comprenez que votre vie, elle va se jouer ailleurs, que vous êtes considéré en tant qu'individu.
To see a member of the royal family in my town,
voir quelqu'un de la famille royale dans une ville comme la mienne, c'était comme voir un martien. Et le fait qu'elle m'ait vu, même pendant une toute petite seconde, m'a fait comprendre, m'a fait réaliser qu'effectivement, ma vie, ça pourrait être autre chose. Donc je dois remercier la reine-mère de m'avoir fait comprendre que peut-être je n'étais pas à ma place et que ma place, potentiellement, était ailleurs. Et à ce moment-là précis, j'aurais voulu être dans la voiture avec elle et pas dans la rue où j'étais. Donc, merci à la reine. C'est bien de rêver.
Il faut rêver grand, vous avez rêvé grand aussi très tôt, Shaggy.
Absolutely. Dreaming is.
Mais oui, je ne peux que vous encourager à rêver. Rêver et rêver grand. Voilà, surtout qu'il n'y ait pas de plafond de verre.
Vous rêviez à quoi enfant, Shaggy?
Be careful.
Attention à ce que tu vas dire.
I had heroes.
Moi, j'avais des héros. Bob Marley. Sting, bah voilà, oui, évidemment. Évidemment, Sting était un de mes héros qui me faisait rêver. Et moi, j'avais envie d'être comme eux. Je les enviais. Et j'ai poursuivi mon chemin avec notamment du dancehall, qui n'était pas très connu à l'époque, mais j'étais l'un des premiers. J'étais un peu un pionnier et j'en ai fait un genre assez mainstream. Et ça, c'est intéressant.
Je voudrais connaître la vraie histoire de vos pseudos. Sting, d'où ça vient, ce pseudo, finalement? Comment vous êtes passé de Gordon Sumner à Sting?
Alors, j'avais 18 ans et je jouais dans un groupe de jazz avec des musiciens qui étaient bien plus âgés que moi, des gars qui avaient 60 ans ou plus. Et à l'époque, je portais un sweatshirt qui était noir et jaune. Donc je ressemblais un peu à une abeille. Et le joueur de trombone, parce que je ressemblais à une abeille, m'a appelé Sting. Sting, c'est la piqûre de l'abeille en anglais. Tu savais pas, Shaggy? Pourquoi tu t'appelles Shaggy, toi d'ailleurs?
Oui, Shaggy. Est-ce que ce surnom, il vient vraiment de Scooby-Doo, de Sammy?
Well, I got Shaggy because my hair was shaggy and I was this really skinny guy.
Non, Shaggy parce que j'étais maigre surtout. Alors peut-être comme lui. Et parfois on me disait, ouais, tu ressembles un peu au gars de Scooby-Doo. Et puis en Angleterre, on a gardé ça, voilà.
Much cooler.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez cool finalement, Shaggy.
L'un comme l'autre, j'ai l'impression que ce qui vous rend plus fort, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans The Last Ship, c'est votre capacité à gérer la scène. Vous êtes d'abord né sur scène. Vous avez joué dans des petits bars, dans des endroits où il n'y avait quasiment pas de public. Ça rend plus fort, ça. Est-ce que ce n'est pas votre plus grande force, finalement, ça?
It's a lovely feeling to walk on stage and,
mais c'est fabuleux de monter sur scène. Lorsque vous montez sur scène et qu'il y a 10 000 ou 20 000 personnes qui sont heureuses de vous voir et qui ne demandent pas à ce qu'on leur rembourse leur billet à la fin de la soirée, c'est formidable, enfin la plupart d'entre eux en tout cas. Et moi j'ai aussi été devant des publics de 10 000 personnes, mais aussi devant 100 personnes et 50 personnes, et je dois vous dire que j'ai toujours été content, que ce soit devant 50 personnes ou que ce soit devant 10 000 personnes ou 30 personnes ou 20 personnes, parce que je suis heureux de voir des gens sourire, je suis heureux de voir que les gens sont heureux que je sois là, et ça me donne de la force.
Merci Sting et Shaggy de passer cette semaine avec nous dans le monde d'Élodie. Vous êtes actuellement sur scène à la scène musicale de Boulogne-Billancourt pour votre spectacle The Last Ship, un spectacle qui existe également en version digitale, CD et vinyle, soit 24 titres. Je vous dis à demain.
À demain.
À demain.
Le monde d'Élodie, c'est à réécouter sur franceinfo.fr. Et la météo, c'est avec Christine Peña, comme tous les matins, vous nous dites, ce matin à 5h28, qu'il y a de plus en plus de soleil
dans la journée. Les régions du Nord sont encore un peu sous les nuages, c'est vrai. Les brouillards d'ailleurs ce matin qui se sont formés en cette fin de nuit. Mais cet après-midi, nous aurons le soleil qui va s'imposer sur le Nord-Ouest, notamment la Bretagne, le Cotentin sortiront totalement de la grisaille. Le soleil va s'imposer, tout comme dans le sud d'ailleurs. Avec cette douceur qui s'installe, on a une ambiance printanière qui va gagner tout le pays d'ici demain, en même temps que le soleil s'imposera lui aussi sur tout le territoire à partir de demain. Là, le nord-est, on a encore quelques petites pluies, un peu de bruine du côté de Metz, de Nancy, je voyais, près des frontières du nord. Ça devrait s'évacuer d'ici ce soir et nous allons vers des records de douceur pour la période qui pourrait bien tomber d'ailleurs. Demain sera certainement la plus douce à l'échelle nationale. Jeudi, on a encore quelques valeurs qui devraient augmenter, mais on a un flux qui s'orientera par l'ouest et apportant de l'air humide, des nuages et de nouvelles pluies qui devraient traverser le pays vendredi, permettant les températures de baisser un petit peu. C'est pas plus mal. Il semblerait que cette dégradation ne soit pas si marquée que ça, finalement, et que le beau temps se rétablisse pour le week-end prochain.
Merci beaucoup, Christine Peña, avec cette info. Donc, le ciel bleu est possible dans le nord de la France. Merci beaucoup d'écouter France Info. Merci de vous réveiller avec nous au menu de la prochaine demi-heure. Ce reportage à l'approche des municipales. Nous serons aussi avec les chanteurs de... Nous étions avec les chanteurs Sting et nous serons bien sûr avec en Ukraine pour les 4 ans de la guerre. Merci d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info. Maureen Suignard.
Et Christine Peña nous parlait du beau temps, mais c'est l'une des conséquences directes des inondations. Les réseaux d'eau potable peuvent être mis à mal en Gironde. Près de 10 000 habitants de 7 communes près de Langon, au bord de la Garonne, ne peuvent toujours pas boire l'eau du robinet. De l'eau potentiellement contaminée est entrée dans les puits qui servent à alimenter le réseau. Les restrictions durent déjà depuis plus de 10 jours et ce n'est pas terminé. À Sainte-Croix-du-Mont, les agents qui gèrent le réseau s'activent pour tout remettre en place. Rémi Brancato.
Le lit de la Garonne est à 300 mètres, les terrains sont encore inondés.
C'est un fourrage en fait, à une profondeur de 300 mètres.
Philippe Clermont, le directeur régional de la Sogedo, la société qui gère le réseau d'eau, montre cet équipement enfin hors d'eau.
De l'eau a pénétré dans l'ouvrage, c'est une eau boueuse. On l'a fermé, on a arrêté le pompage.
Juste à côté, les agents pompent. La station de production a été inondée elle aussi. Ils sont une vingtaine contre 10 en temps normal.
Il y a un appel à volontariat qui a été fait. Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent d'un peu partout.
Il va falloir nettoyer 300 km de canalisation, précise Barbara Méric, technicienne qualité.
On ouvre ce qu'on appelle les purges sur le réseau, donc des robinets, et on fait venir l'eau. On enlève l'eau qui n'est pas bonne pour en remettre de la meilleure.
En ajoutant aussi du chlore pour la traiter et pour vérifier que l'opération fonctionne, la technicienne prélève des échantillons tous les jours.
Je vais mettre un sachet de réactif qui va colorer l'eau et après je vais faire une mesure en fait colorimétrique, ça s'appelle. En fonction de la couleur, va me dire à peu près le taux de chlore. 0,17, il faudrait un peu que ça monte. Donc il va falloir qu'on augmente le taux de chlore dans le réseau.
L'Agence régionale de santé fera ses propres mesures en fin de semaine. Retour à la normale peut-être lundi. En attendant, la Sogedo distribue 5000 bouteilles d'eau par jour.
Le reportage de Rémi Brancato. 3 départements sont toujours en vigilance rouge. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. La Sarthe et la Charente sont en vigilance orange. Là, cela n'a rien à voir avec les inondations. 3 associations écologistes portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement dans les Vosges, à Arinthès les Corcieux et à Tendon. La préfecture interdit de boire l'eau à cause d'une teneur trop importante en polluants éternels. Les associations affirment que l'épandage de boues industrielles est en cause. Emmanuel Macron, entouré des ministres de la Justice et de l'Intérieur, à l'Élysée ce matin, réunion sur les groupes d'action violente d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Cette réunion est organisée après la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon il y a 10 jours. Le week-end dernier, c'est une marche pour lui rendre hommage qui a été organisée dans la ville. Certains participants ont fait des saluts nazis. 2 enquêtes sont ouvertes. La famille de Quentin Derenck prend ses distances aujourd'hui. Elle, qui n'était pas présente à cet hommage, condamne ses gestes, Pierre de Cossette.
Les mots sont on ne peut plus clairs. Dans le communiqué d'une dizaine de lignes transmis par son avocat, la famille de Quentin Derenck dénonce la présence de certains extrémistes notoires. Elle ne cite pas de nom, mais des figures de l'ultra-droite étaient présentes samedi dernier à Lyon, dans le cortège ou dans le service d'ordre. La famille précise que si elle n'était ni présente ni à l'initiative du rassemblement, elle n'avait rien contre l'idée de cet hommage, à condition, ajoute-t-elle, qu'il fût respectueux et apolitique. Mais si la famille de Quentin de Ranque remercie les participants qui sont venus dans une démarche sincère et digne, elle dit condamner fermement ce qu'elle qualifie de récupération politique de cette marche effectuée sans la moindre pudeur et de débordement raciste et discriminatoire constaté en marge de cette marche. Pour conclure, la mémoire de Quentin n'appartient pas à des groupuscules, mais à tous les Français.
Pierre de Cossette est toujours en région lyonnaise, à Bron. Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé. Il a été poignardé près d'un lycée, transféré dans un état grave à l'hôpital hier après-midi. Les témoins évoquent une altercation entre ce lycéen et la personne qui l'a frappé au couteau. Et puis plus d'un demi-million de foyers sont sans électricité aux États-Unis à cause de la puissante tempête de neige qui a touché le nord-est du pays. Jusqu'à 90 cm sont tombés par endroit. 40 millions de personnes voient leur quotidien perturbé. Encore aujourd'hui, avec de nombreuses écoles fermées notamment.
France Info, 5h-6h, Maureen Suignard.
Les Russes espéraient une opération éclair, une guerre courte, une prise de l'Ukraine rapide. Mais le conflit dure depuis maintenant 4 ans. Après cette invasion russe le 24 février 2022, depuis, la course à l'armement a repris en Europe pour fournir notamment des obus à Kiev. En France, le seul site qui fabrique ses munitions d'artillerie sont les forges de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Une usine à l'avenir industriel complètement relancée par la guerre. Elle a déjà recruté des dizaines de personnes en l'espace de 4 ans. Et elle cherche toujours à embaucher d'autres personnes, Agathe Mahuet.
Une petite fourmilière de la forge à l'usinage et sous l'un des hangars, des montagnes d'obus empilés que présente Stéphane Bonio, le directeur.
On fournit un corps creux, une belle pièce de métal qui fait aux alentours des 50 kilos. Vide. Ensuite, nos clients vont les remplir de TNT ou de poudre.
Et le plus gros client, c'est le groupe français de défense KNDS. Sa dernière commande aux forges l'engage jusqu'en 2028 pour des obus amenés à rejoindre les canons César déployés en Ukraine.
Aujourd'hui, on a pris conscience que finalement, l'artillerie était indispensable dans les guerres modernes.
Résultat, sur ce site racheté en 2021 par Europlasma, la production de ces munitions de gros calibre a bondi. 2000 par an seulement avant la guerre, 50 fois plus aujourd'hui et bientôt jusqu'à 160 000 obus.
Si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, bon, on aurait diversifié certainement l'activité, mais on n'aurait pas la croissance que l'on a aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte. De toutes les manières, si ce n'est pas nous qui produisons, ça sera produit ailleurs.
Ceux qui travaillent ici ont à cœur d'ailleurs de contribuer à la défense.
Je suis un ancien militaire.
Comme Jean-Philippe qui a 42 ans.
On va dire qu'on produit pour l'armée. Cela ne me dérange pas, ça pourrait déranger certaines personnes, mais moi en tout cas... Pas du tout.
19 salariés restants il y a 4 ans, ils sont 84 aujourd'hui. Jean-Philippe, qui est originaire de Dijon, est entré aux forges il y a quelques mois seulement en tant qu'intérimaire.
En venant aider les forgerons ici, je me suis pris un peu de l'amour sur ce métier-là. Et là, j'ai évolué en tant que chef de presse, où justement, on commande totalement la forge.
C'est là que l'acier est chauffé à 1200 degrés.
C'est un peu comme de la pâte à modeler, on va la contraindre à prendre des formes dans un moule.
Un attrait qui continue de surprendre Stéphane Bonio, le patron.
Ce qui fait beaucoup rêver, c'est d'être forgeron. On n'imagine pas, parce que forgeron, c'est un métier dur, un milieu bruyant, il fait très vite chaud.
Mais le recrutement n'est pas simple face à l'accélération des commandes, car si les filières existent dans le nord-est de la France, les forgerons déjà formés ne courent pas les rues de Tarbes.
On est obligé de prendre des gens volontaires et de les former finalement au métier. Les métiers de l'industrie ne sont pas valorisants. En plus, on a un bassin d'emploi qui est très sollicité par l'aéronautique. Effectivement, ça fait plus rêver d'aller travailler dans des ateliers où on peut manger par terre que de venir faire de la forge où c'est salissant.
Les forges de Tarbes cherchent à recruter encore 35 personnes dans les tout prochains mois pour espérer atteindre une équipe de 120 salariés.
France Info reportage d'Agathe Mahuet. Alors que l'Ukraine entre dans sa cinquième année de guerre, le président ukrainien appelle son homologue américain Donald Trump à rester du côté de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky estime que Donald Trump ne fait pas suffisamment pression sur le chef d'État russe pour mettre fin à la guerre. Les négociations entre Russes et Ukrainiens sont au point mort. Mais pour le général Jérôme Pellistrandi, ces 4 ans de guerre sont avant tout un échec pour Vladimir Poutine.
C'est un fiasco.
militaire pour Vladimir Poutine. Il faut arrêter de faire croire que la Russie est en train de gagner. En fait, la Russie occupe à peu près 20% du territoire ukrainien. Militairement, c'est un échec pour Vladimir Poutine. Il faut le dire haut et fort. Et ce qu'il faut souligner, c'est l'extraordinaire résilience des Ukrainiens, civils et militaires. Et les Ukrainiens tiennent. Alors, c'est compliqué, ils sont sur la défensive. Il y a environ, donc tous les soirs, des bombardements qui touchent les infrastructures civiles. C'est l'hiver le plus froid depuis des décennies. Donc, imaginez, dans ces, notamment dans les grandes villes, ces immeubles privés de chauffage et d'électricité, parce que c'est des systèmes à la soviétique, hein, de chauffage collectif. Donc, quand vous avez du moins 10, moins 15, la vie est très dure. Mais les Ukrainiens résistent. Et c'est ça ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont mis en échec le plan de Vladimir Poutine.
Donc cette guerre est plus punitive pour la Russie que pour l'Ukraine, si je vous suis bien.
Bah, en tout cas, elle démontre que, d'abord, Vladimir Poutine, lui, et c'est bien le problème, n'a pas changé dans ses résolutions. Il veut la capitulation de l'Ukraine, mais il ne l'obtiendra pas parce que militairement, il n'arrive pas à percer le front.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Bah, c'est bien ça la question, en fait.
J'ai l'impression que c'est une question qu'on vous pose à chaque fois, oui, et mais à laquelle on n'a toujours pas de réponse.
Et je pense qu'on n'a pas de réponse. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a un Vladimir Poutine qui n'a fait aucune concession. Les Ukrainiens ont fait des concessions. Volodymyr Zelensky a en quelque sorte entériné que s'il y avait un cessez-le-feu, il pourrait se faire sur la ligne de front, c'est-à-dire que les territoires occupés resteraient sous contrôle russe. Donc les Ukrainiens ont fait beaucoup de concessions, mais la Russie, aucune concession. Et puis, bien entendu, il faut parler du rôle des États-Unis, qui est un rôle très ambigu actuellement.
Et justement.
En fait, on voit bien que d'abord, rappelez-vous, Donald Trump avait dit que en 24 heures, il allait régler le problème. Ce n'est pas le cas. Ensuite, il avait dit que s'il avait été président au bon moment, il n'y aurait jamais eu la guerre. Donc, en fait...
On ne peut pas le vérifier.
Exactement. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une manœuvre diplomatique de la Russie pour, en quelque sorte, faire miroiter à Donald Trump des contrats faramineux liés à la richesse du sous-sol russe au détriment de l'Ukraine et, bien entendu, des Européens.
Alors justement, les Européens, la transition est bien trouvée. Concernant les sanctions économiques, Jérôme Pellistrandi et le rôle de l'Union Européenne, on l'a vu, la Hongrie de Viktor Orban s'est donc opposée à ce nouveau paquet de sanctions contre la Russie. La chef de la diplomatie européenne dénonce un revers. Pour vous, c'est aussi ça, ce qui s'est passé, une débâcle, un échec ?
Pas forcément. En fait, Viktor Orban joue en permanence sur l'ambiguïté. D'une part, il a, et c'est ce qui a été rappelé par notre correspondant à Bruxelles, des élections dans 2 mois.
Il a le soutien. Il est sous pression.
Il est sous pression, il a le soutien de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle, vous savez, un régime illibéral, c'est-à-dire que certes, il y a un volet démocratique, mais il veut contrôler notamment la presse et tous les moyens d'expression. Et donc, il joue en permanence, en quelque sorte, parce qu'il est membre de l'Union européenne, pour obtenir des avantages. Bon, alors, ça va négocier en coulisses, jusqu'où va-t-il obtenir quelque chose ? Mais il est vrai qu'il envoie un message extrêmement négatif, et effectivement, il faut rappeler que la Hongrie a été le premier pays à souffrir de l'Union soviétique, avec notamment Budapest en 1953, où il y a eu plusieurs milliers de morts par l'armée rouge.
Est-ce que vous avez le sentiment, Jérôme Pellistrandi, que les Européens aujourd'hui sont dans le déni, un déni qui les empêche et d'être à la hauteur du moment, mais aussi de voir ce qui les attend ?
En fait, il faut voir qu'en 4 ans, tout a changé. Le monde géopolitique a été complètement bouleversé, d'une part par l'invasion, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine. La guerre hybride que la Russie mène contre les Européens, dont la France, ingérence dans les processus électoraux, manipulation des opinions publiques, fake news, utilisation des réseaux sociaux. D'autre part, bien sûr, depuis plus d'un an maintenant, l'administration Trump qui est disruptive au minimum, donc avec le fait que les Européens qui ont finalement benoîtement profité de ce qu'on appelait les dividendes de la paix se retrouvent au pied du mur avec une Russie agressive et les États-Unis qui les lâchent.
Et effectivement, la Russie, l'économie russe a résisté aux sanctions occidentales. Ils ont trouvé des circuits d'importation parallèles, ils ont réorienté leur vente d'hydrocarbures vers d'autres marchés. Donc finalement, est-ce que ces sanctions sont vraiment efficaces ?
Alors, oui, elle commence à être efficace, puisque en fait, les résultats économiques pour 2025...
Au bout du 20e, du 19e paquet de sanctions.
Voilà. Alors d'abord, et c'est l'un des problèmes, c'est que les Russes, c'est une population qui est très résiliente. D'autre part, Vladimir Poutine n'a pas touché, je dirais, à la jeunesse de Moscou et de Saint-Pétersbourg, sur notamment le recrutement militaire.
J'aimerais qu'on fasse un point, Jérôme Pélistrandi, sur les pertes militaires. Là aussi, comme pour les gains de territoire, le bilan n'est pas connu avec certitude. Alors, est-ce qu'on sait combien de soldats sont morts des deux côtés, combien de civils ?
On a à peu près, on a une estimation. En gros, il y a plus d'un million de soldats russes hors de combat. Alors, ce qu'on appelle hors de combat, c'est les morts, les blessés, les disparus, les déserteurs. Donc, un million de soldats russes hors de combat. Mmh. Environ peut-être 300 à 400 000 du côté ukrainien. Les pertes civiles ukrainiennes, elles sont documentées notamment par les Nations Unies. Donc là, on a des chiffres qui sont assez précis. Depuis 4 ans, c'est environ 16 000 civils qui ont été tués par les bombardements. Je rajouterai, et ça c'est un élément qui est dramatique, c'est que les enfants, voilà, les enfants qui ont 4 ans aujourd'hui n'ont connu que la guerre. Et ça, ça va avoir un impact dans la durée. C'est-à-dire que, en plus, les hommes, qu'ils soient russes ou ukrainiens, qui sont hors de combat, ce sont ceux qui, normalement, doivent assurer le renouvellement des démographiques. Et donc, déjà que l'Ukraine était en difficulté démographique, avec un vieillissement, puis beaucoup d'Ukrainiens qui quittaient le pays. Idem en Russie, l'impact de cette guerre va durer des décennies. Et ça, c'est un élément qui est dramatique.
Le général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, avec Soazic Bourg dans le 21h minuit sur France Info. Nous prenons la direction du Mexique dans une minute où 10 000 soldats ont été déployés pour mettre fin aux violences après la mort d'un chef d'un cartel puissant. C'est après un tour complet de l'actu.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
France Info, 5h-6h.
5h45, le récap de l'info avec vous Sarah Der. C'est à la une ce matin, de nouvelles frappes russes en Ukraine.
5 personnes blessées à Zaporijja, d'autres sont mortes plus tôt dans la journée hier, à la veille du 4e anniversaire du conflit déclenché par l'invasion russe. Des dirigeants européens sont attendus pour l'occasion à Kiev aujourd'hui. Après la mort du militant identitaire Quentin Derenck, Emmanuel Macron convoque ce matin une réunion sur les groupes d'action violentes. Objectif, mieux lutter contre ces organisations et surtout comprendre les liens entre ces groupes et les partis politiques. Un étudiant sur trois est en situation de mal logement selon la dernière enquête de l'AFAGE. Des moisissures, des cafards, des dégâts des eaux. Ces conditions portent atteinte à la santé et à l'avenir des étudiants, alerte la Fédération d'associations. À Toulouse, le projet d'usine de paracétamol prend du retard à cause du redressement judiciaire d'un de ses partenaires. La production est décalée à 2028. L'usine sera une première européenne.
France Info. Il était le baron de la drogue, le plus recherché du pays, El Mencho, tué lors d'une opération militaire au Mexique, a entraîné une vague de violence de la part des membres du cartel. Des commerces, des stations-service attaquées, des barrages routiers installés. 25 membres de la garde nationale ont été tués en quelques heures. De l'autre côté, 46 membres du cartel sont morts. La région de Jalisco, le fief du cartel, est l'épicentre de cette crise. Gwendoline Duval, vous êtes au Mexique pour France Info. Les activités se sont complètement arrêtées dans cette région.
À l'aéroport de Guadalajara, c'est encore un peu le chaos. Même si des vols sont repartis dans l'après-midi de lundi, il y en a toujours beaucoup d'annulés ou de retardés. Julia, une touriste américaine, espère rentrer en Californie après une nuit passée à Guadalajara.
Beaucoup de gens ont dormi à l'aéroport. Il y avait beaucoup de monde sur le sol, partout, à cause des vols ratés.
Talia est mexicaine et vient du Sinaloa pour le travail. Elle a été surprise par l'alerte de sécurité.
Tout s'est fermé. Il n'y avait plus rien d'ouvert. L'hôtel a pris ses mesures de sécurité et s'est confiné. Notre vol a été déplacé aujourd'hui. Alors oui, on est en retard, mais au moins on peut partir. Nous sommes soulagés et on retrouve un peu notre calme. Mais on prend nos précautions.
Dans la capitale du Jalisco, à la nuit tombée, la plupart des habitants continuent de limiter leurs déplacements. Même si les transports publics reprennent du service progressivement, Roman est chauffeur de taxi. Il était au travail quand les émeutes ont éclaté dans la ville. Même si sa famille va bien, il dit avoir eu très peur.
C'était le chaos et la panique. C'était compliqué de se sentir isolé dans la rue. J'ai vu les ravages qu'ils ont fait, les véhicules calcinés. Ils ont déployé des herses pour crever les pneus et quand j'ai décidé de rentrer chez moi, ils ont mis le feu à un camion. J'étais tout seul et les commerces étaient fermés. Je me suis senti frustré parce que je me demandais ce que je faisais là. Je dois travailler pour ma famille, mais j'aurais voulu être avec eux et les protéger.
On observe dans la ville une grande présence des forces armées. Plus de 2000 soldats supplémentaires sont arrivés hier dans la région. Selon les autorités, il n'y a plus de blocage sur les routes, mais certains témoignages font état d'incidents entre Guadalajara et la cité balnéaire de Puerto Vallarta.
France Info, reportage de Gwendolina Duval. Avec ce contexte tendu, les Français ont été appelés à la plus grande prudence sur place au Mexique. Axel Canu, vous avez pu joindre un Français, Mathieu, installé et désormais confiné dans la ville où il habite.
On a commencé à recevoir des notifications sur le téléphone, de la famille, des groupes WhatsApp, des voisins et puis bien entendu des chaînes d'information. On avait une réunion familiale prévue, plusieurs personnes devaient arriver à Chapala dans les heures qui suivaient hein. Et on a commencé à passer des coups de fil et puis tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que chacun restait chez soi parce que en effet on voyait des blocages de route et puis personne ne peut prévoir où est-ce qu'ils vont attaquer et quand. Et quand on voit l'ampleur du mouvement là, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir et on n'est pas sorti du tout de la journée. Et donc voilà, donc pour l'instant, on reste encore cloîtré avec ma femme, mon fils et mes beaux-parents. Il s'avère qu'on est dans une sorte de résidentiel fermé. On ne sort pas, on attend d'en savoir un peu plus. On sait que les écoles sont fermées, que beaucoup de centres commerciaux et de business sont fermés aujourd'hui aussi. Voilà, les gens vivent un peu dans l'expectative. Là.
À Chapala, quel est le climat ?
Au moindre bruit, les gens paniquent.
Est-ce qu'il y a eu des dégradations particulières ?
Les groupes conflictuels ont brûlé le Banco de Bienestar, c'est-à-dire une institution du gouvernement pour donner de l'argent aux retraités. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, les OXXO, donc les OXXO, c'est des supérettes qui ont été pris pour cible.
Là, vous savez quand est-ce que vous allez sortir ou pour l'instant, vous préférez pas y réfléchir et rester un petit peu dans votre bulle ?
Alors nous, on a un voyage prévu de l'autre côté du pays en avion jeudi, donc on aimerait bien que ce soit passé, mais bon, on ne sait pas si on va pouvoir y aller. Pour l'instant, on est à la maison, on a encore 2-3 jours devant nous. Tant qu'on ne voit vraiment pas une accalmie, voire même que ce soit dit dans les médias, vaut mieux pas se mettre en danger pour rien.
Mathieu, ce Français installé dans la ville de Chapala au Mexique. Son œuvre, publiée en 1949, a bouleversé toute une génération et continue d'être une référence. 1984 de George Orwell, l'auteur décrit une société imaginaire où les dirigeants exercent une autorité totale sur les citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. L'écrivain britannique arrive au cinéma grâce à un documentaire, Matteo Maestrachi. Il s'agit d'Orwell 2-2 égale 5, réalisé par Raoul Peck.
Quand je m'assieds pour écrire un livre, je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer.
Again, how many fingers?
En 1948, le journaliste et écrivain Joseph Arthur Blair, plus connu sous le pseudonyme de George Orwell, s'isole, affaibli par la maladie sur l'île de Jura en Écosse, pour finir de rédiger 1984, roman dystopique qui imagine un avenir sombre pour les individus, une ère du totalitarisme et de la surveillance de masse personnalisée par le fameux leader Big Brother. Le documentariste Raoul Peck nous rappelle qu'Orwell a écrit ce livre comme un avertissement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de la menace pesant sur les démocraties du monde.
La portée de ce qu'il avait écrit était universelle. Il critiquait toute tendance autoritaire, y compris dans les démocraties occidentales. Parce qu'il nous dit, en fait, il faut tout le temps faire attention. La démocratie, c'est pas quelque chose, une denrée, on prend une cuillère de sirop et puis ça y est, une fois pour toutes, non. C'est un combat quotidien.
Le concept même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde.
La grande force du film est de faire résonner ces propos d'Orwell, lus en version française par le comédien Eric Ruff, avec énormément d'images d'archives, reportages, guerres, conflits ou manipulations, de la guerre d'Espagne à nos jours, mais en majorité des images récentes, où l'on croise Donald Trump, l'italienne Giorgia Meloni et bien d'autres, avec cette notion de vérité alternative qui a émergé ces dernières années dans le débat politique. Raoul Peck.
parfois en salle de montage, on n'en croyait pas nos yeux. Où les images qu'on recevait dépassaient les mots qu'on avait et c'était l'embarras du choix. À tel point qu'il répondait exactement à ce que Orwell avait écrit. Mais déjà au montage, on a déjà une quantité d'archives, on pourrait s'y perdre.
George Orwell avait aussi anticipé les dérives de l'informatique avec ses personnages scrutés par des écrans. Et les quelques séquences générées par IA dans le film montrent que la réalité a bel et bien dépassé la fiction.
Quel genre de monde nous créons ?
Matteo Maestrachi, la chanteuse française la plus écoutée au monde, n'est peut-être pas celle que vous pensez. La playlist de France Info, c'est dans moins de 5 minutes avec Sarah Ders. Place d'abord à l'Actu Éco. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'éco avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique en trois titres avec vous, avec d'abord cette info, faire réparer sa voiture coûte de plus en plus cher.
Et oui, selon le baromètre Mobiliance Solware qui scrute les tarifs du secteur, le prix de la main-d'œuvre a augmenté de 2,6% l'année dernière. Près de 1000 ateliers de carrosserie et de mécanique ont été passés au peigne fin. Alors en mécanique avec pièces détachées, le panier moyen a augmenté de 3% à 403 €. Idem pour les ateliers de carrosserie avec une hausse du panier moyen de 4,5% pour atteindre 1 700 €. Mobiliance affirme que cette hausse des factures s'explique notamment par des interventions plus techniques et l'évolution des besoins de réparation.
Deuxième info, l'énergéticien italien Enel annonce des investissements massifs dans les renouvelables.
Oui, Enel, c'est l'équivalent italien de notre EDF en France. Le groupe va débloquer 20 milliards d'euros d'ici 2028, notamment en Europe et aux États-Unis. L'entreprise vient de présenter son nouveau plan stratégique. Il prévoit que plus des trois quarts des futures nouvelles capacités de production seront constituées d'éoliennes et de technologies programmables telles que les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Le géant italien a déjà annoncé l'acquisition d'un portefeuille de parcs éoliens et solaires aux États-Unis pour environ 1 milliard de dollars, quelque 840 millions d'euros.
Et puis le Royaume-Uni recrute un haut cadre d'Amazon pour diriger le gendarme de la concurrence britannique.
Oui, il s'agit de Doug Goehr, président d'Amazon Chine entre 2014 et 2016, puis directeur du groupe au Royaume-Uni jusqu'en 2020. Le dirigeant devra quand même se soumettre à une audition parlementaire avant de voir sa nomination éventuellement confirmée par l'exécutif à Londres.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Les investissements industriels progressent partout dans le monde. Les incertitudes qu'entraîne la politique économique de Donald Trump ne semblent pas peser sur le moral des grands groupes, mais nous verrons que ces investissements profitent avant tout aux États-Unis, moins à l'Europe et encore moins à la France.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny et à tout à l'heure sur France Info. Il est 5h56, l'heure de la playlist avec vous Sarah Ders. Vous nous dites ce matin que la chanteuse française la plus écoutée au monde n'est pas celle que l'on croit.
Ce n'est ni Aya Nakamura, ni Iseult, ni Clara Luciani, mais Indila. Avec ce titre, Dernière danse, Indila détient plusieurs records à son actif. Premier clip français à dépasser le milliard de vues, des dizaines de millions de streams, de vues, de partages. La chanteuse parisienne accumule 496 millions d'écoutes chaque mois. C'est plus que Beyoncé ou encore Taylor Swift.
C'est beaucoup.
Et pourtant, le paradoxe ou l'une des explications, son premier et dernier album, Mini World, date de 2014. Dans cette love story,
cette love story. Mais alors, qu'est-ce qui a aidé la notoriété de la chanteuse parisienne, Sarah ?
Eh bien, quelques reprises par des stars super connues après Dua Lipa. C'est le rappeur américain Lil Uzi Vert qui a samplé, repris une boucle du morceau Love Story pour son nouveau single What You Saying. Même Britney Spears danse sur la chanson SOS d'Indila, c'était en 2021. Depuis, les clips d'Indila enregistrent toujours des milliers de vues, comme quoi la rareté ou la nostalgie fonctionnent. En 2025, elle est la chanteuse francophone la plus écoutée aux États-Unis, devant donc Iseult et Aya Nakamura. Mais toujours pas de nouveaux titres à l'horizon, même s'il se murmure son grand retour et même une tournée mondiale. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je
donc pas forcément la dernière danse d'Indila. Merci beaucoup Sarah Ders, la météo arrive. Avec vous Christine Peña, encore une fois,
oui,
vous nous dites ce matin qu'il fait un petit peu plus doux.
Mais oui, de plus en plus doux, on va battre des records de douceur hein, pour la période à partir de demain. Ça sera d'ailleurs la journée la plus chaude de la semaine. Aujourd'hui, on ira jusqu'à 14 à Strasbourg, mais 16 à Lille, à Paris comme à Alençon. Ça sera la même température du coup qu'en Méditerranée, à Nice et à Toulon. 16 degrés aussi comme à Paris et Lille. 17 à Lyon, 18 à Rennes comme à Marseille. Même température à Marseille qu'en Bretagne. 19 à Nantes et Clermont-Ferrand, on a plus chaud. On a Montpellier, Perpignan, 21 degrés. Mais c'est quand même dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud. Aujourd'hui, 23 à Biarritz et 25 au pied des Pyrénées du côté de Pau.
Christine Peña, que l'on retrouve bien sûr avec plaisir hein, tous les matins sur France Info. Lui est connu pour ses reprises de Taylor Swift, mince, je trahis un secret. Bonjour Adrien Beck.
Bonjour Maureen.
C'est 6-9 qui commence.
Bonjour à tous, bienvenue effectivement dans ce 6-9, en ce 24 février 2026. Elle était censée durer quelques jours et voilà 4 ans que Vladimir Poutine a lancé son offensive sur l'Ukraine. France Info s'installe à Kiev en cette journée particulière. Vous entendrez tout ce qui a changé en 4 ans, l'enlisement sur le front, la population ukrainienne.